La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 29 septembre 2025 et c'est la journée nationale contre le gaspillage alimentaire. En France, chaque personne jette en moyenne 25 kilos d'aliments consommables par an. 25 kilos, c'est bien moins que l'an passé. En revanche, toujours trop. Cela représente un repas entier jeté à la poubelle chaque semaine. Et encore, ce chiffre ne tient pas compte de ce qui est perdu en amont, dans les champs, lors du transport, dans les rayons des supermarchés. Et pourtant, dans le même pays, au même moment, des centaines de milliers d'étudiants sont confrontés à une précarité alimentaire grandissante. Selon les derniers rapports, près de 18% des étudiants ont recours à l'aide alimentaire et parmi eux, plus d'un tiers avouent sauter régulièrement des repas faute de moyens. Autrement dit, certains jettent pendant que d'autres ne mangent pas. Les restos du cœur, les banques alimentaires, les distributions étudiantes n'ont jamais vu autant de monde dans leur file d'attente. On parle de jeunes pleins d'avenir qui viennent simplement chercher de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine. Et dans le même temps, nos poubelles regorgent de pâtes, de légumes, de yaourts encore consommables. C'est là tout le grand paradoxe de notre époque. L'abondance qui se transforme en gaspillage face au manque qui se transforme en faim. Et cela interroge évidemment qu'est-ce que ça dit de notre organisation collective, notre rapport à la consommation, de notre sens de solidarité. On pourrait se contenter d'accuser la négligence des uns ou le manque de moyens des autres, mais la vérité est plus complexe. Le gaspillage, il est partout, dans nos habitudes de consommation, dans nos frigos trop pleins, dans les promotions qui poussent à acheter plus que nécessaire, dans les normes de distribution qui refusent une pomme parce qu'elle est trop biscornue. Alors, la journée anti-gaspillage, elle doit aussi nous faire un temps d'arrêt pour repenser nos comportements individuels, cuisiner les restes, acheter moins mais mieux, respecter la nourriture que l'on a, mais aussi de repenser nos comportements collectifs. C'est aussi une question de justice sociale et tant que nous accepterons de fermer les yeux sur ce paradoxe, tant que nous tolérerons que 25 kilos de nourriture finissent chaque année dans nos poubelles pendant que les étudiants sautent des repas, alors oui, nous aurons collectivement manqué quelque chose d'essentiel, le respect, le partage et la dignité. Au programme de cette matinale de 19h, Baïa à l'interview, notre invitée du jour, Marie Duru-Bella, sociologue spécialiste des questions d'éducation, de stratification sociale et de genre, et aborderont le classement Shanghai. Le tour de l'actualité, le flash info avec Fabien, la chronique actu, nous parlerons de la colère des agriculteurs, justifiée ou pas. En zoom, nous retrouverons Philippe et nous parlerons du festival musique Rive Gauche, en présence de la directrice artistique du festival, Colline Vandenberg. Et pour finir, ce sera Gauthier avec sa chronique humoristique. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, nous recevons donc Marie Duru-Bella, sociologue spécialiste des questions d'éducation et des inégalités sociales et de genre, professeur émérite à Sciences Po. Nous allons parler du classement Shanghai, un classement mondial des universités. Et c'est avec vous, Baïa. Bonsoir, Baïa.
Bonsoir, Francesca.
Bonsoir. Bonsoir, Marie Duru-Bella. Bon, vous êtes là, vous nous entendez bien?
Oui, absolument, oui.
Merci, merci d'être avec nous.
Alors, un petit rappel peut-être des origines avant de commencer l'interview. Le classement de Shanghai, il a été créé en 2003 par le professeur Nian Chengliu de l'université Jiaotang de Shanghai. Et ce classement, à la base, était un instrument de politique publique pour que les universités chinoises montent en prestige. Et donc, ma première question pour vous, Marie Duru-Bella, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères de ce classement de Shanghai? Et donc, quelle vision ce classement a sur le rôle de l'université dans la société?
Ben, ce classement, au départ, il est. En fait, il y a une autre finalité que vous n'avez pas rappelée, mais qui était de dire aux étudiants chinois qui vont à l'étranger et qui veulent se former en général au niveau du doctorat, quelles sont les universités qui brillent en matière de recherche universitaire. Hein, donc, ce classement, d'emblée, a retenu comme critère de classement des indicateurs qui concernent la recherche. Hein, c'est les prix Nobel, le nombre de prix Nobel parmi les anciens élèves, parmi les chercheurs, les publications, bien sûr, dans les revues les plus prestigieuses. Et ils ont ramené, d'ailleurs, indicateurs d'efficacité en ramenant ces publications à l'effectif hein, des enseignants-chercheurs. Donc, c'est vraiment très polarisé sur l'excellence de la recherche. Hein. Alors, pour orienter éventuellement les étudiants chinois, mais aussi parce que la Chine voulait rattraper en matière de recherche, les pays occidentaux les plus en pointe, et en particulier, évidemment, les États-Unis.
Et donc, vous l'avez dit, il y a comme critère le nombre de prix Nobel parmi les anciens élèves, parmi les professeurs. Il y a aussi, vous l'avez dit, les citations dans des revues américaines, Nature, ouais. And Science. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, du coup, quelle vision ce classement donne de l'université ?
Ben, c'est une vision qui est importante, mais partielle. Hein, tout le monde sait que l'université n'a pas comme vocation première de former des prix Nobel. Hein, les prix Nobel, c'est rare quand même, alors qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc, c'est une vision qui est tronquée. Elle est polarisée sur cette mission essentielle de l'université qui est de créer des savoirs, hein, donc la recherche universitaire, mais elle ne dit rien sur la qualité des enseignements ou la qualité de l'insertion des étudiants. Hein, donc, c'est une vision importante, mais tronquée. Il faut bien la situer à sa juste mesure.
Et aussi, est-ce qu'on peut dire qu'avant, l'université était un réel pôle de création intellectuelle, réflexive, et qu'avec ce classement, on bascule un peu dans un moteur d'une économie de connaissances ?
Non, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a des années, même peut-être quelques décennies, que chez les enseignants-chercheurs dont je suis, l'aiguillon hein, de la part de nos institutions, c'est produire de la recherche qui soit citée au niveau international. Hein, le chercheur de base, enfin, l'enseignant-chercheur de base, hein, il doit rendre des comptes, il veut avancer dans sa carrière, il doit être cité, publié dans les meilleures revues. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau. Disons que le classement de Shanghai met cette fonction en exergue. Hein, mais en même temps, je pense que ça ne change rien parce que cet enseignant-chercheur à qui on demande de publier, d'être conforme à ses critères, dans le même temps, il a des amphis nombreux. Il se soucie de ce qu'apprennent les étudiants et aussi de ce qu'ils deviennent dans la vie active. Donc, je ne pense pas que ça soit un changement. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce classement ait tant d'écho que ça parmi la communauté universitaire.
D'accord. Et on voit chaque année que dans ce classement de Shanghai, les universités françaises sont toujours loin du podium. Par exemple, en 2025, la première université française est celle qui arrive en 13e position. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce classement de Shanghai il désavantage les universités françaises ?
Le système français est assez particulier. On a, comme vous le savez, à la fois des universités et des grandes écoles. Hein. Nos universités, elles ne sont pas hiérarchisées hein, comme les universités américaines. Dans les universités américaines, les universités justement, qu'on appellera d'excellence, elles vont sélectionner les étudiants, elles vont sélectionner les enseignants. Et le paysage universitaire américain, il est très hiérarchisé. Bon, en France, c'est beaucoup moins net. Hein. Qui saurait dire si entre les universités de Strasbourg, de Montpellier, de Bordeaux, etc., quelle est la meilleure ? Par contre, chez nous, il y a quelque chose qui est très important, c'est la dichotomie grandes écoles et universités. Dans notre pays, que ce soit les étudiants les plus brillants sur le plan académique, hein, et éventuellement certains enseignants aussi relativement brillants, sont aspirés par le système des grandes écoles pour différentes raisons, pour leur prestige, mais aussi pour les situations hein, professionnelles des étudiants. Et d'une certaine manière, ça dessert hein, les doctorants qui ne vont qu'à, si on peut dire, quelle université. Donc, nous, la hiérarchie, elle n'est pas entre universités, mais entre les universités et les grandes écoles. Et ça, c'est une faiblesse, parce que les grandes écoles ne sont pas des champions en matière de recherche. Donc, ils sélectionnent les étudiants, ok, les gens sont très bons au niveau académique, ils se placeront très bien, mais en matière de recherche, les premiers classements, alors les derniers, ça n'a pas beaucoup évolué, montraient que Polytechnique était très mal classée. Alors, il y a des effets de taille aussi. Hein, nos grandes écoles n'ont pas la taille des grandes universités, mais quand même, je pense que cette dichotomie nous fragilise par rapport aux critères de Shanghai.
Et il y a aussi d'autres classements alternatifs qui existent. On a par exemple le Kwakwaraeli Simons, qui se base notamment sur la réputation académique, la réputation du côté de l'employeur. On a aussi le Times Higher Education, qui se base sur l'enseignement. Et donc, pour vous, quels critères on devrait prendre en compte pour, on va dire, un nouveau classement ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait évaluer les trois missions de l'université, la recherche, l'enseignement et la préparation à la vie professionnelle. Il faudrait vraiment tenir les trois. Le problème, c'est que c'est très difficile et relativement tabou dans notre pays. Comment va-t-on évaluer la qualité de l'enseignement ? Dans notre pays, il n'y a pas de mesure uniforme sur tout le territoire de ce que doit savoir quelqu'un qui a un bachelor en droit ou en sociologie. On a des vagues indications nationales, mais on n'a pas de tests comparables. Par exemple, au niveau du bac, il y a encore des épreuves comparables, quelques-unes au niveau national. Au niveau de l'université, on ne sait pas. La fonction d'enseignement n'est pas évaluée et on n'est pas sûr qu'on ait vraiment toujours envie de l'évaluer. Pour la qualité de l'insertion, c'est assez difficile aussi à mesurer. Est-ce qu'on va regarder le taux d'emploi, les salaires, etc. ? C'est difficile parce que les performances des étudiants sur le marché du travail dépendent aussi de la sélection qu'on a fait, par exemple, au niveau des masters, au niveau des troisièmes cycles. Donc, est-ce qu'on mesure vraiment la qualité de la formation ou la sélection qui a été pratiquée ? Donc, ces mesures ne sont pas immédiates, elles ne sont pas forcément consensuelles et il n'y a pas beaucoup de débats là-dessus en France. On n'est pas, de toute façon, les champions de l'évaluation, ça, c'est sûr.
D'ailleurs, je voulais revenir sur ça, sur le fait qu'il n'y ait pas de consensus autour de ces critères. Si on établit de nouveaux critères, comment les établir ? Est-ce que, je sais que dans votre livre, vous mettez l'idée poser cela de l'utilité de l'éducation en débat public. Est-ce que aussi notre société n'est pas, on va dire, conditionnée à comment l'école est ? Comment, pour vous, on pourrait mettre justement ces questions-là en débat public ?
Il n'y a pas du tout de débat, parce que d'un côté, pour ce qui est de la recherche, à la limite, c'est l'évaluation de la recherche qui pose le moins de problèmes. C'est pour ça que le classement de Shanghai, c'est pas une affaire d'État. Par contre, savoir qu'est-ce qu'on va prioriser dans les fonctions de l'université entre les savoirs et l'insertion. Il y a une vingtaine ou voire une trentaine d'années, quand on a commencé à parler à l'université de préparer à l'emploi, il y a des collègues qui étaient contre, qu'on dit, c'est scandaleux, la vraie fonction de l'université, c'est de produire des savoirs. Alors ça, c'était peut-être une position défendable quand il y avait 15 à 20% d'une classe d'âge qui allait à l'université. Mais maintenant, on a une masse d'étudiants, on a plus de la moitié des jeunes qui rentrent à l'université et qui comptent bien que ça leur serve à s'insérer. Donc, on ne peut plus éluder cette question de la préparation à l'insertion. Alors, le problème, c'est comment on organise ce timing. Est-ce qu'il faut dire, finalement, on a un premier cycle qui est 100% académique. Et puis après, on verra, ils jetteront dans le grand bain. Moi, je militerai plutôt pour qu'on ait d'emblée, les jeunes, après tout, ils ont 18-19 ans, ce n'est pas des gamins quand ils rentrent à l'université, qu'on ait d'emblée, certes, l'acquisition de connaissances, mais aussi une familiarisation bien plus poussée qu'aujourd'hui au monde du travail, pour que progressivement, ils voient dans quelle direction ils vont s'insérer. Ce n'est pas ce qu'on a là. Là, les jeunes s'inscrivent sur Parcoursup selon leurs préférences disciplinaires, selon là où ils vont être pris, selon un certain nombre de paramètres, qui souvent n'ont qu'un lointain rapport avec ce qu'ils imaginent être leur vie professionnelle future. Donc, on a vraiment un problème d'orientation et d'information à ce stade-là qui devrait être posé. Mais je pense qu'on n'a pas à choisir entre tout académique ou toute insertion.
Et peut-être une dernière question avant la pause. Est-ce que vous avez des échos des étudiantes et des étudiants dans votre parcours qui, justement, voudraient que l'université change ?
Il y a toujours beaucoup de critiques. L'université, c'est peut-être une de ses fonctions d'ailleurs, va développer l'esprit critique. Donc, les étudiants. Alors, nous, on voit surtout ceux qui restent. Alors, il y a le problème de ceux qui s'en vont. Vous savez qu'il y a un taux d'abandon assez important. Donc, je pense que de toute façon, l'université reste un style, toujours un style très académique, très lointain. Hein, il y a un choc entre le lycée et l'université. Bon, qu'il y ait une rupture, pourquoi pas, hein. Là encore, les étudiants sont majeurs, ils sont capables d'assumer une certaine rupture. Donc, il y a une distance. Et puis, il n'y a pas juste, ça reste souvent très abstrait, très académique, justement, pour la majorité des étudiants qui, après, découvrent la vie professionnelle par leur petit boulot, et puis, ou bien découvrent la vie professionnelle quand ils ont fait des études et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils imaginaient, la vie professionnelle. On parle beaucoup en ce moment de ces étudiants, y compris des grandes écoles, qui finalement repartent faire des emplois artisanaux et des choses comme ça, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Voilà, ils bifurquent, hein, c'est un terme à la mode, effectivement. Donc, l'université reste très loin quand même du paysage des professions. Hein, surtout quand on est en province, encore à Paris. À Paris, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup d'emplois intellectuels, entre guillemets. Ça veut dire que ça demande énormément de compétences intellectuelles, mais il y a des emplois intellectuels. Mais quand vous habitez une petite ville de province, et il y en a quand même beaucoup d'étudiants dans ce cas-là, ils vont faire leurs études, je sais pas, à Limoges, puis après, ils vont vivre leur vie à Guéret. Vous imaginez qu'ils vont trouver des emplois de cadres qui vont juger à hauteur des études qu'ils ont faites. Il y a vraiment un problème de décalage assez important, qui encore n'était pas marqué quand il y avait 20% d'une classe d'âge au niveau d'une université. Mais quand il y a la moitié, voire un peu plus, là, il y a un problème. Et ça, ça engendre des déceptions, des désillusions, de l'amertume, hein, de la part des étudiants. Et quand on les rencontre, moi, je dois dire que ça m'est arrivé, quand j'étais en université, pas à Sciences Po, de rencontrer d'anciens étudiants, une ancienne étudiante qui était caissière dans un magasin, et j'ai eu honte. Voilà, j'ai eu honte. Mais ça, c'est une destinée sociale, une trajectoire sociale qui est quand même relativement fréquente, et ça, ça interroge tout le monde, les universitaires et bien sûr les étudiants eux-mêmes.
Merci beaucoup. On revient après une petite pause musicale en lien avec l'école du coup, donc on va écouter France Gall avec le titre Sacré Charlemagne. Il est 19h17 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne,
de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que de
travail,
travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Au lieu de nous ennuyer.
Obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
On vient d'écouter France Gall avec le titre Sacré Charlemagne. Et on retrouve tout de suite Baya pour la suite de son interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Alors, Marie Duru Bella, pardon, Marie Duru Bella, le dernier classement de Shanghai publié le 15 août 2025 qui met sur le podium Harvard, Stanford et le MIT. Et du côté des universités françaises, on a Paris-Saclay en 13e position, Paris-Dauphine en 34e, la Sorbonne en 43e et Paris-Cité en 60e. Et donc, chaque année, quand même, ce classement a une résonance médiatique assez importante. importante et il est suivi aussi de près par les décideurs et les décideuses politiques français. Et donc, ma question, c'est quelles conséquences pour vous a ce classement sur notre système universitaire français ?
Bah, d'abord, le fait que les gens qui sont bien classés, enfin les gens, les universités qui sont bien placées dans ce palmarès le fassent connaître, montre bien qu'on a beau le critiquer, bah, on aime bien quand même, on aime bien le classement, et donc c'est bien l'excellence à la française. Mais ça, c'est un peu... Bon, ce que ça a déjà eu des conséquences, ce palmarès, dans la mesure où il y a un effet de taille des universités. On voit bien que les gros... Même s'il y a un indicateur d'efficacité, puisqu'on rapporte les publications au nombre de personnes, il y a quand même un effet de taille. Plus on a d'étudiants, plus on a chance d'avoir un prix Nobel, évidemment. Donc, ça induit une politique de regroupement des universités. Et le problème que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le problème des grandes écoles, des rapprochements entre grandes écoles et universités, les développements de gros campus, où la recherche est très présente et a plus de moyens, il y a déjà eu des conséquences de ce type. Alors, ce n'est pas toujours un succès. Par exemple, en province, on a beaucoup regroupé, invité les universités. Je donne l'exemple, par exemple, de Besançon et Dijon, par exemple. On les invite à se regrouper, mais en fait, ça ne marche pas toujours. Les gros ensembles ne sont pas toujours une réussite. Mais il y a déjà eu des efforts qui ont été faits. Par contre, ce qui devrait suivre aussi de la part de la puissance publique, c'est que ces grosses universités bien classées dans Shanghai, elles ont des moyens très importants en matière de recherche. Or, on sait bien qu'en France, la recherche s'essouffle, on a des problèmes de financement de la recherche, et si ça pouvait donner des idées à la puissance publique, ça serait pas mal. Mais c'est vrai que dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'argent privé qui est investi dans la recherche, et ça, ça peut-être pas sans rapport avec le fait que nos élites sont formées dans les grandes écoles, elles ne sont pas formées dans les universités. Et donc, aller donner de l'argent à la recherche universitaire, c'est moins dans les pratiques courantes que dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple.
Et est-ce que aussi ce classement mondial, ça induit que notre modèle de service public, on va dire, des universités est menacé ?
Non, je pense que là, vous allez peut-être un peu loin. Non, parce qu'il y a un modèle, bon, on ne peut pas comparer avec le système américain, c'est trop différent, évidemment, mais il y a quand même des universités de pays voisins, alors je n'ai pas le classement sous les yeux, mais que ce soit des Pays-Bas, je crois, ou du Royaume-Uni, qui ne se classent pas si mal, alors que c'est des institutions vraiment publiques. Donc, je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. Simplement, c'est vrai que les critères de jugement sur la recherche, c'est l'innovation, c'est la croissance économique, ça, on peut toujours s'interroger là-dessus. C'est une recherche qui sert à briller au plan mondial dans la course entre les pays. Donc, bon, il y a bien sûr ce modèle-là, de modèle de compétition dans un monde où ce qui compte, c'est d'avoir plus, quoi. Plus, et plus que les autres. Donc ça, on peut le critiquer, mais je n'irai pas plus loin pour le moment.
Mais il y a aussi ce classement de Shanghai, il a servi beaucoup de justification pour des projets de réforme des universités, notamment où on met en œuvre des politiques néolibérales et qui sont basées sur l'efficacité, le rendement et pas forcément plus, comme vous l'avez dit, de budget pour les universités. Est-ce que vous voyez ce lien ?
De toute façon, il y a au moins une trentaine d'années que la notion de performance, elle est partout. C'est la rationalisation des choix budgétaires. Il faut être performant. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ça soit en soi aberrant. La performance au service de quoi ? Mais par exemple, observer plus précisément qu'on le faisait il y a 20 ou 30 ans, qui réussit à l'université ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que plus d'étudiants réussissent ? C'est un indicateur de performance. Moi, ça ne me paraît pas scandaleux. Je pense que personne ne veut que les étudiants échouent et les étudiants eux-mêmes ne veulent pas échouer. Donc, il faut se méfier un peu des jugements trop, à mon avis, trop globaux. On met l'étiquette néolibérale et du coup, on emballe la chose. Il y a des indicateurs de performance qui peuvent être mobilisés. Alors, évidemment, là où ça peut devenir beaucoup plus critiquable, c'est justement au niveau de la recherche, ce que j'évoquais tout à l'heure. Si toute la recherche qu'on doit, qu'on veut soutenir, c'est une recherche qui soutient le développement économique, on ne va plus faire, de l'Antiquité romaine, parce que ça, ça ne sert à rien. On dira ça sert à quelque chose. Donc, le critère, est-ce que ça sert ? Là, ça peut être effectivement un problème dans une économie qui compte ses sous, effectivement. Il faut que l'université reste un endroit où on fait des recherches gratuites. Et de toute façon, toute la recherche, on ne sait jamais au départ si ça va être vraiment utile, même en sciences.
Et aussi sur peut-être des types de recherches. On sait que la recherche sur le temps long, en immersion, est aussi importante. Et ce type de recherche peut être aussi menacé.
Oui, enfin, il y a maintenant, de toute façon, les chercheurs se financent beaucoup, pas uniquement sur leur dotation publique, heureusement, ils ne feraient pas grand-chose, mais avec des gros projets européens ou internationaux. Et ces projets européens ou internationaux, ça nous rapproche d'un modèle justement de business. Enfin, j'ai toujours eu l'impression, moi, en fin de carrière, qu'on nous demandait d'être des businessmen, parce qu'il fallait aller chercher l'argent avec des gros projets. Donc, on fait des projets, on fait des collaborations, et on a en général 5 ans pour le faire. Donc, bon, ça c'est un modèle qui s'est imposé depuis très longtemps, ce qui ne veut pas dire qu'on est asservi, par exemple, aux contraintes européennes, etc. Parce que quand on a un budget, on fait un peu, pas entièrement ce qu'on veut, mais on a quand même une marge de manœuvre. L'argent donne une marge de manœuvre par définition. Donc, bon, voilà. Après, il faudrait voir par discipline. Il y a peut-être des disciplines pour lesquelles les inquiétudes que vous avez sont plus accentuées. Mais moi qui suis plutôt dans les sciences sociales, qui ne sont pas celles qu'on finance le plus largement, je n'irai pas jusque-là. Les chercheurs dans les sciences dites dures, que ce soit en physique appliquée, des choses comme ça, eux travaillent déjà avec le secteur privé, mais est-ce que ça les ligote plus forcément? C'est pas sûr, hein. Une fois qu'ils ont de l'argent, on a de la marge de manœuvre. Voilà, je crois que c'est vraiment ça, on s'en rend bien compte quand on fait de la recherche.
Oui, mais il y a peut-être aussi des phénomènes de précarisation où il y a de plus en plus des doctorants qui sont obligés de travailler en même temps parce qu'ils ne sont pas financés et que le financement est compliqué. Mais je vais passer à une autre question.
Oui, sur ce point, je voudrais quand même vous dire quelque chose quand même. Les étudiants pas financés, il y en a quand même beaucoup plus, mais beaucoup plus, qui sont financés aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Quand j'étais étudiante, ça n'existait pas ou pratiquement pas. Il faut aussi avoir regardé le temps long, justement. Et il y a quand même, de ce point de vue-là, il y a eu un progrès sur le long terme qui est indéniable. Alors qu'il puisse y avoir des reculs à court terme, c'est possible. Mais sur le long terme, je vous assure, il n'y a pas photo, hein. Les conditions de préparation d'une thèse, il n'y a pas photo. Voilà.
Alors, pour finir, j'aimerais aller parler, que vous parliez de votre livre que vous avez coécrit avec François Dubé aux presses de Sciences Po, pardon, qui s'appelle L'emprise scolaire quand l'école tue l'éducation. Et vous critiquez le poids de l'école dans nos sociétés, qui est devenu un passage obligatoire qui aggrave les inégalités sociales notamment. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous, quelle devrait être, selon vous, vous avez un peu répondu, mais j'aimerais quand même que vous reveniez dessus, quelle serait, pour vous l'université de demain?
C'est-à-dire ce qu'on souligne dans l'emprise scolaire et qui vaut pour l'université comme pour le secondaire, hein, c'est que la course au diplôme utile risque de tuer, hein, l'intérêt enfin, sincère, authentique, hein, pour ce qu'on étudie. Hein. Ça, c'est observé d'ailleurs de nombreux pays, notamment dans des pays plus pauvres, hein, qui ont développé leur université parce que c'est le seul espoir d'avoir un emploi. Donc, les étudiants se ruent sur l'université et tout est bon pour avoir un diplôme. On a le droit de tricher, il y a de la corruption, il y a tout ce qu'on veut, parce que l'essentiel, c'est le diplôme qu'on va avoir. C'est pas ce qu'on a appris, c'est le diplôme qu'on va avoir. Et donc, plus les titres scolaires ont une influence sur l'emploi qu'on peut avoir, plus risque de se développer justement des stratégies uniquement utilitariste, hein, qui se fiche complètement de ce qu'on apprend. C'est assez facile, hein, finalement, aujourd'hui, dans beaucoup de disciplines, peut-être pas partout, d'avoir son diplôme. C'est assez facile, hein, les exigences ont plutôt baissé dans beaucoup de domaines, et on arrive, si on travaille normalement, si on n'abandonne pas, on arrive à avoir un diplôme. Puis on se dit, ben pourquoi pas le diplôme du dessus, et puis celui du dessus, même si ça ne vous intéresse pas, parce que les étudiants savent bien qu'ils se classent selon leur diplôme. Donc ça nous paraît catastrophique parce que ça risque de détourner vraiment du plaisir éventuel d'apprendre, du sens des savoirs. Et là, ça va complètement dans le sens, enfin, des risques, hein, que vous évoquiez tout à l'heure. Non, non, il nous semble que ce poids des diplômes, il est excessif, il y a d'autres critères, parce que le diplôme exclut aussi. Il y a tous ceux qui n'ont pas de diplôme, pas forcément parce qu'ils ratent à la fac, hein, mais parce que leurs parents ont divorcé quand ils avaient 15 ans, ils ont raté leur bac, leurs études secondaires, ils sont fichus pour la vie. Et ça, c'est pas normal. C'est évidemment pas normal. On est dans un pays où il y a très peu de retours en formation, hein, de formation continue. On le dit souvent, mais c'est un peu une tarte à la crème. Mais c'est vrai, il y a peu de retours en formation. Ceux qui y vont le plus, c'est ceux les plus diplômés, hein, qu'on aurait le moins besoin. Donc, il faudrait trouver un autre système pour accrocher, hein, les gens aux emplois. Là, le diplôme, c'est facile, hein, ça classe les gens, c'est clair, net, ça va. Mais il y a beaucoup de gens qui sont exclus et ça nourrit du ressentiment chez les jeunes et du pessimisme, hein, qu'on constate actuellement. Donc, c'est dans cela qu'on dit que trop d'écoles tuent l'éducation. Hein, c'est le sous-titre du livre. Ça tue l'intérêt pour ce qu'on apprend. On est motivé uniquement par le rendement futur.
Et peut-être, pour finir très rapidement, s'ajoute à cela, ce que vous dites, c'est que le diplôme devient de plus en plus un marqueur de position sociale. Alors, c'était le cas avant, mais est-ce que pour vous, ça s'aggrave aujourd'hui ?
Ben, ce qui s'aggrave aujourd'hui, c'est le marquage social de ceux qui n'ont pas de diplôme. Mmh. Parce que justement, dans un pays où 80 et même plus pour cent d'une classe d'âge arrive au niveau bac, vous imaginez celui qui n'arrive pas au niveau bac. Hein, c'est vraiment les 20% des derniers. Hein. Chez les adultes, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas ce niveau, puisque l'éducation s'est développée au fil des générations. Donc, c'est sans doute l'exclusion de ceux qui n'ont pas de diplôme qui, elle, tend à s'aggraver. Après, le marquage social des diplômes. Alors, je voudrais quand même nuancer ce qu'on écrit nous-mêmes, c'est-à-dire que le marquage, il est très, très net. Dans les premières années de vie active, il y a quand même un certain reclassement qui se fait pendant la vie active. Hein, heureusement, le fait d'être reconnu comme compétent dans sa profession, ça améliore quand même un peu les choses, hein, évidemment. Mais par contre, ce qui reste, il peut-être s'accentue aussi quand même un peu, c'est l'élite de l'élite. On a aux deux bouts, on a un marquage hein, du côté de ceux qui n'ont rien et de ceux qui ont vraiment les grandes écoles les plus prestigieuses. On observe par exemple que leur avantage salarial, il tend plutôt à s'accentuer. Hein, alors qu'à l'autre bout du spectre, au contraire, il y a des problèmes de déclassement, y compris financiers.
Merci beaucoup Marie Durubella.
Merci beaucoup Marie Durubella et merci d'avoir été avec nous. Alors tout de suite, c'est le Flash Info et c'est avec Fabien.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Fabien.
Bonsoir. Et on commence tout de suite avec les appels de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant qui ont été déposés après le procès pour soupçon de financement libyen. Un mandat de dépôt différé a été prononcé contre l'ex-président de la République, convoqué le 13 octobre par le parquet national financier pour se voir signifier la date et le lieu de son incarcération. Et puis, le Danemark va interdire tous les vols de drones civils dans les prochains jours sur son territoire pour assurer la sécurité du sommet européen qui réunira les chefs de gouvernement à Copenhague. De nouveaux drones ont par ailleurs été observés au-dessus de sites militaires au Danemark durant la nuit de la deuxième journée consécutive. Et puis, les trains de nuit Vienne-Paris et Berlin-Paris ne circuleront plus dès le 14 décembre. Si le train de nuit bénéficie d'un certain engouement, il reste un produit peu rentable pour les compagnies ferroviaires. L'État français subventionne largement les lignes relancées, environ 2 millions d'euros par an pour la liaison vers Berlin. Une fusillade dans une église mormone du Michigan dans le nord des États-Unis a fait au moins 4 morts et 8 blessés dimanche 28 septembre. Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre quelques minutes après le début de l'attaque. L'église a également été incendiée. Entre 500 et 800 voitures d'auto-école se sont rassemblées vers 8h lundi 29 septembre aux portes de Paris pour mener plusieurs opérations escargot. L'intersyndicale des gérants d'auto-école, UNDIC, UNIDIC et Mobilian, a appelé à une journée de mobilisation ce lundi. Ils protestent contre le manque d'inspecteurs d'examen du permis de conduire et les délais d'attente de date d'examen pouvant atteindre des mois. Et puis sport, c'est le grand match que tous les suiveurs du football européen attendent depuis la fin de la saison dernière. Après avoir réussi leurs entrée en Ligue des Champions. Il y a deux semaines, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont s'affronter mercredi 1er octobre lors du choc de cette phase de Ligue des Champions. Et pour terminer, Orlestan a annoncé une tournée d'une trentaine de dates en France et en Belgique qui débutera le 16 janvier 2026 à domicile à Caen. Les places seront en vente dès mardi à 10h du matin.
Merci beaucoup Fabien et on revient tout de suite après une petite pause musicale. Nous allons écouter Remour avec le titre Daya. Il est 19h34 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Restez avec nous.
Traîner, maltraiter.
Nous venons tout de suite d'écouter Remour Daya et tout de suite c'est la chronique.
La matinale de 19h.
La chronique aujourd'hui, donc c'est moi parce que j'ai quand même une interrogation et avec l'événement de vendredi, je pense que la question se pose. La colère des agriculteurs est-elle vraiment exagérée ? Vendredi dernier, les agriculteurs se sont mobilisés une fois de plus. On entend souvent dire que les agriculteurs sont toujours en colère, comme s'ils se plaignaient en permanence, comme s'ils étaient incapables d'être satisfaits. Mais franchement, faut arrêter ce cliché car aujourd'hui, il y a vraiment de quoi être en colère. D'abord, on va regarder les faits. Le libre-échange les met face à une concurrence déloyale. On leur impose à eux des normes strictes, environnementales, sanitaires. Et c'est tant mieux car nous voulons des produits sûrs, des produits traçables, respectueux. Mais dans le même temps, nos frontières s'ouvrent aussi à des produits venus de très loin, cultivés dans des conditions bien différentes, parfois sans les mêmes règles, et vendus à des prix imbattables. Comment un agriculteur français qui respecte toutes ces contraintes peut-il lutter ? Et puis, nos comportements de consommation ne les aident pas. On aime afficher notre soutien aux agriculteurs, on signe des pétitions, on était jusqu'à plus de 2 millions, on s'indigne sur les réseaux sociaux, mais dans les rayons, que faisons-nous vraiment ? Nous sommes nombreux à céder aux produits pas cher, venu d'ailleurs. Alors oui, nous voulons manger mieux, mais sans payer le prix réel. Paradoxe encore, nous exigeons beaucoup, mais nous achetons ce qui contredit nos propres valeurs. En France, plus de la moitié des exploitations agricoles ont disparu en 30 ans. Selon le recensement agricole 2020, nous sommes passés de 490 000 exploitations en 2010 à environ 390 000 en 2020. Soit 100 000 fermes en moins en 10 ans. Chaque année, près de 20 000 exploitations disparaissent. Et demain, selon la FNSEA, d'ici 10 ans, un agriculteur sur deux partira à la retraite, souvent sans repreneur. Alors, comme l'écrit très justement Louise Lespard dans sa tribune publiée dans Les Échos, allons-nous laisser mourir nos paysans ? Notre société et son agriculture vivent un mariage raté. Pourquoi raté ? Parce que nous les voulons modernes, innovants, respectueux de l'environnement, mais nous les laissons seuls face à des contraintes économiques intenables. Louise Lespard le souligne aussi, l'agriculture ce n'est pas seulement une activité économique, c'est un pacte social et culturel. C'est ce qui nous nourrit, c'est aussi ce qui façonne nos paysages, nos villages, notre identité. Je vous dis ça puisque aujourd'hui j'ai fait un producteur d'oignons justement qui était en souffrance, qui n'arrivait pas à vivre de sa culture. En perdant nos agriculteurs, nous ne perdons pas seulement du coup des exploitations, nous perdons des savoir-faire, une relation au terroir, un maillon en tout cas essentiel de notre souveraineté alimentaire. Et il existe des solutions. Manger moins cher, c'est possible quand on respecte la saison, les produits locaux, en plus d'être souvent plus sains, soutiennent une économie de proximité. Je dis ça aussi, mais acheter des pommes françaises en septembre plutôt que des pommes de Chili ou des fruits exotiques importés. C'est pas donc une question de budget, c'est une question de cohérence et de responsabilité. Alors oui, les agriculteurs sont en colère. Nous avons construit un modèle où l'agriculteur doit produire plus, toujours plus, pour gagner moins. Et pendant ce temps, on ferme les yeux sur la disparition des fermes comme si c'était une fatalité. Alors pour répondre à la question, les agriculteurs sont sont-ils toujours en colère ? Non, ils ne sont pas toujours en colère, ils sont simplement à bout de souffle et c'est rien d'autre que le cri d'alerte d'un monde que nous sommes en train de laisser mourir, à moins que nous nous décidions enfin d'écouter et de choisir.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et tout de suite, c'est le Zoom et nous allons parler festival musique Rive Gauche qui aura lieu du 3 au 5 octobre dans le 15e arrondissement. Et c'est avec Philippe, nous accueillons donc Colline Vandenberg.
Oui, bonjour à tous. Nous recevons donc Colline Vandenberg pour le festival Musique Rive Gauche. Tu l'as dit, Francesca, c'est un festival qui se veut éclectique. C'est aussi un festival qui veut décloisonner les styles de musique. On va le voir tout à l'heure peut-être. Avant de parler du festival proprement dit, est-ce que vous pouvez, Colline, vous présenter un peu, présenter votre parcours ?
Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis professionnelle de la musique. Dans mon parcours, il y a de plus en plus de musique de création. Et voilà, j'ai été une habitante du 14e pendant très longtemps. Et en tant que professionnelle de la musique et aussi passionnée de musique, très vite, en fait, il est devenu très prégnant chez moi qu'il fallait que je traverse la Seine pour aller au concert, pour aller au spectacle. Et donc, mes amis, à force de m'entendre râler, m'ont dit « Mais pourquoi on ne ferait pas un truc ?» Voilà. Et donc, en tout cas, en tant que professionnelle de la musique, c'est comme ça que nous avons lancé cette initiative donc, de Musique Rive Gauche.
Oui, justement, parce que j'ai vu que vous parlez de traverser la Seine. La rive droite est plus pourvue en festival que la rive gauche. Donc, c'était un peu pour contrebalancer la rive droite par rapport à la rive gauche.
Oui, c'est ça. En fait, je vous pose la question à vous. Si vous vous questionnez sur votre pratique de concert, de spectacle, vous verrez qu'en fait, vous êtes souvent rive droite. Voilà. Et donc, on vient nous offrir aux habitants de la rive gauche et donc des 6 arrondissements de la rive gauche et puis de l'autre côté aussi du périph, une proposition qui soit de qualité.
Et rapidement, comment vous expliquez ce déséquilibre entre la rive droite et la rive gauche ? C'est une question de salle ? De salle de musique,
de concert. En fait, en réfléchissant et en se disant mais où sont les lieux, où est-ce qu'on peut organiser des concerts ici sur la rive gauche, en fait très vite on s'est rendu compte que le problème c'était les lieux et qu'il y en a peu en fait rive gauche. Donc nous l'envie du festival elle est vraiment née du 14e, c'est-à-dire qu'on a eu un coup de cœur en fait pour cette annexe de la mairie du 14e qui est une magnifique salle art déco et en fait on s'est demandé ce qu'on pourrait y faire. Alors effectivement elle est magnifique, mais c'est vrai que c'est souvent une question d'acoustique et c'est le problème récurrent de beaucoup de salles sur la rive gauche. Donc là, voilà.
Avant de parler proprement dit du festival, on peut revenir un peu sur votre parcours professionnel. Vous êtes agent d'artiste, donc votre boulot, c'est de faire vivre les projets d'artistes en fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet?
J'ai un petit catalogue d'artistes, voilà, rassemblé sous le nom de La Musica Artiste. Et pour ces projets, qui sont parfois des projets solo, mais aussi parfois des projets collectifs, moi, mon travail, c'est de leur trouver des concerts. Et je vis donc de... je pense que vous avez tous vu la série 10% qui traite du milieu du cinéma. Ben voilà, moi, je vis des commissions, des concerts que je vends pour mes artistes. Voilà.
D'accord. Donc, on va en venir au festival tout de suite. Alors, depuis combien de temps ce festival dans le 14e existe ?
Alors, on a lancé de façon complètement zinzin, si je puis me permettre, la première édition dans ce petit trou où l'on pouvait faire des petites choses en 2020. Donc, il y a eu une petite fenêtre là en septembre 2020 et on a décidé de lancer l'association donc en juin. Et on a préparé en fait une toute petite édition dans l'annexe de la mairie du 14e là en septembre. On a organisé deux concerts. On était à un mètre les uns des autres avec des masques et on a doublé en fait un concert. Mais très vite qui a donné en fait la tonalité du festival, puisqu'on a mis en avant une compositrice très importante américaine qui s'appelle Caroline Shaw, qui est prix Pulitzer. Et en fait, ça a un peu lancé la tonalité du festival, ce concert.
C'était en quelle année ?
C'était en 2020. Donc 2020. Ça fait, là on est à notre 5e édition.
Donc ça fait 5 ans que le festival existe. Alors pour ce festival, vous avez choisi la couleur bleue comme étendard. Je crois, vous avez parlé je l'ai vu sur internet, de Michel Pastoureau, qui s'y connaît en couleur. Et vous avez expliqué que c'était pas forcément le meilleur choix pour la couleur, parce que la couleur bleue c'est une couleur froide, et vous voulez faire un festival chaud. Alors j'aimerais que vous expliquiez là-dessus.
En fait, la couleur bleue, c'est aussi la couleur du feeling blue, en fait, qui est souvent un sentiment, un état d'âme qui est traité par les romantiques. Alors nous, évidemment, on a choisi de plutôt se questionner sur les musiques de création. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que, d'ailleurs, notre premier concert était une mise en regard d'une compositrice de la période romantique avec une compositrice de la période d'aujourd'hui, une compositrice vivante. Et en fait, sur le bleu, il y avait une envie de traiter de ce feeling blue, de l'eau, de la Méditerranée. C'est devenu en fait un étendard assez vaste. Et puis d'ailleurs, cette année, dans les compositrices que l'on met en avant, il y a une compositrice grecque qui s'appelle Calliope Tsoupaki, qui s'inspire énormément de son pays, de la mer. Et cette compositrice grecque n'a jamais été jouée en France, alors qu'elle a été compositrice d'État pendant 3 ans aux Pays-Bas. Voilà, donc on est.
Et il y a une couleur pour chaque année, non ?
Non, on essaie de travailler avec un fil rouge, une thématique. Enfin voilà, c'est plus pour se donner, une petite contrainte amusante. Voilà.
Alors on va parler de la programmation du festival. Quelle est la programmation du festival ? Ce sont des musiques très éclectiques, je crois.
Alors, très éclectique, finalement, pas tant que ça cette année, pour la simple et bonne raison que, je m'adresse aussi à un public de campus. On sait tous que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand on organise un festival, on est à la recherche de financement. Et que donc on fait une programmation idéale et puis en fait quand on se confronte à la réalité des subventions que l'on nous attribue, il faut faire des choix. Et c'est vrai que on s'était engagé sur des commandes, sur une première mondiale d'une pièce, et donc finalement cette édition elle est quand même très musique de création, même si normalement le festival a vocation à proposer vraiment des musiques de tous les styles. C'est un peu l'intérêt, enfin en tout cas c'est ce qu'on s'est dit qu'on voulait faire, de mélanger toutes les musiques. Mais voilà, en tout cas cette année on a deux gros concerts, donc au théâtre Sylvia Montfort, le 3 octobre, ouais, à 20h, donc un projet qui s'appelle Way Stories, qui est donc la première mondiale d'une compositrice qui s'appelle Eva Reiter, donc par l'ensemble Ayoid Voices, qui est belge. Et c'est un projet qui, lui, a tiré son essence, enfin, si on revient à la thématique bleue, des pollutions, des déchets, vraiment de la notion de déchets, et en se questionnant sur les déchets métaphysiques et physiques, parce que les déchets métaphysiques, ça peut aussi être les souvenirs sont des déchets. Voilà, et donc ça, c'est la c'est une pièce de théâtre musical, donc on a quatre chanteuses au plateau, de l'électronique, des petits instruments faits de recyclage justement par la compositrice. Le lendemain, on a un très gros concert aussi au théâtre Sylvia Monfort à 20h, donc, qui s'appelle Little Blue Something.
Donc le 4 octobre.
Voilà, le 4 octobre. Je reviendrai au matin, parce qu'on a une proposition le matin, mais en tout cas, le soir, toujours au théâtre Sylvia Monfort, une proposition qui va rassembler les musiques de Bryce Dessner, qui est pour le coup une figure bien identifiée du réseau musique actuel aussi, parce que c'est l'un des leaders du groupe The National, donc un grand leader de groupe pop rock.
Donc c'est un festival international aussi.
Oui, bah, en fait, là, c'est vrai que sur le plateau, on aura un quatuor néerlandais avec Vanessa Wagner, la pianiste qui est notre artiste associée, mais aussi, là en tout cas, on va donner à entendre la musique de compositeurs venus d'ailleurs, puisqu'il y a Bryce Dessner qui est d'origine américaine, tout comme Caroline Shaw, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis aussi donc Calliope Tsoupaki, compositrice grecque. Voilà.
D'accord. Et alors, sur les lieux, le lieu, ça se passe dans le 14e et 15e, c'est le choix du lieu, c'est voulu, parce que je crois que vous faites aussi des festivals en province, je crois.
Oui, on a une. Alors, je vais y revenir après, mais pour revenir au 14e et 15e, donc on a aussi une proposition pour le très jeune public, les 0-5 ans, dans le 14e, au pavillon de la Sirène. Voilà. Et donc, effectivement, ces deux gros concerts au théâtre Sylvia Monfort dans le 15e. Pourquoi ces lieux-là? Parce que, justement, le théâtre Sylvia Monfort a eu envie, historiquement, c'est plutôt un lieu de nouveaux cirques, de théâtre. Et là, a envie de s'ouvrir à la musique et nous a accueillis les bras ouverts. Donc, on remercie d'ailleurs Jean-Baptiste Pasquier et Ninon Leclerc, les deux directeur du théâtre, et puis aussi donc Louise Courant qui nous accueille au pavillon de la Sirène. Et puis effectivement, on s'ouvre et cette association continue de s'étendre, puisque là on lance notre saison briochine de concerts. Quand je dis briochine, je pense que vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est tout simplement parce qu'on la lance à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor.
Saint-Brieuc,
dans le
22. D'accord.
Voilà,
et les briochins, ouais, c'est ça.
Voilà, moi je suis briochine parce que je vis maintenant à Saint-Brieuc.
Alors, je ne sais pas si on aura le temps de parler du territoire, mais je crois que vous avez une théorie très, très précise sur le territoire, justement, sur les festivals et le territoire, l'importance du territoire, le lien entre le territoire et les festivals.
Disons que créer de l'événement, c'est se poser la question de qui ça intéressera. Et donc du coup, il faut de toute façon, quand on s'implante à un endroit, le connaître, rencontrer les gens, trouver des partenaires pour un festival, ça demande énormément de temps et puis beaucoup d'affection pour ces territoires que l'on habite.
D'accord.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colline. On a fini cette interview. Merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle le festival Musique Rive Gauche qui a lieu donc, du 3 au 5 octobre au théâtre Sylvia Monfort.
Et au pavillon de la Sirène.
Et on peut aussi retrouver les informations sur votre site web, Musique Rive Gauche.
Ouais, www.musique-rive-gauche-paris.com.
Merci beaucoup. Une petite pause musicale. On écoute un des artistes justement du festival est aussi devenu, vous l'avez dit tout à l'heure, votre artiste associé, Vanessa Wagner, avec le titre Étude 16. Nous venons donc d'écouter Vanessa Wagner avec le titre Étude 16. Vous écoutez la matinale de 19h. Il est 19h57 et tout de suite la chronique de Gauthier.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir Gauthier, comment allez-vous ?
Bonsoir, ça va très bien. Cette semaine, c'est ma 67e chronique sur ces ondes. Ce sera l'incipit de mon prochain roman. Et oui, je vous annonce aujourd'hui en exclusivité que je sors mon premier livre. Après 8 ans de chroniques radio, je vous propose enfin ma collection, mon recueil de toutes les chroniques que j'ai faites. Alors, vous vous attendez sûrement à un livre rempli d'anecdotes, de bonus, de goodies, comme par exemple un exemplaire de ma première chronique qui était manuscrite. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ça aurait été une bonne idée. Mais malheureusement, je l'ai perdu. Mais des bonus, il y en aura. Par exemple, chaque chronique sera accompagnée d'une capture d'écran indiquant le nombre de vues qu'elle avait sur YouTube au moment de l'écriture du bouquin. Par exemple, ma 5e chronique effectuée en mars 2023, qui a actuellement 30 vues. Attends, vous rigolez, mais dans le jargon des chroniques radio publiées sur YouTube, je vous assure qu'on appelle ça un buzz. Mais il y aura aussi 2 ou 3 commentaires tirés des réactions qui ont suscité mes chroniques sur Internet. Et quand je dis 2 ou 3, c'est bien parce qu'il y en a en tout 2 ou 3. Dans ce livre, aucun moment choisi. Absolument pas un best-of. Tout sera là, brut, sans aucune relecture. Toutes les fatueuses de frappe d'origine seront présentes. Toutes les ratures que j'ai faites sur Google Docs. Tous les bégayements seront retranscrits. Pourquoi je fais ce livre ? De 1, parce que il faut bien qu'au bout d'un moment, tout ce dur labeur puisse me rapporter peut-être un peu d'argent, genre 2 euros par mois en droit d'auteur, qui me seront instantanément pris par mon abonnement à la SACD. Mais de 2, comme ça, je vais pouvoir entamer une tournée médiatique pour la promotion et enfin dire dans les médias ce que je pense vraiment de la société. Parce que Radio Campus Paris, c'est super. On est libre sur beaucoup de choses, mais il y a certains sujets desquels je suis formellement interdit de parler.
Ah ouais ? J'aimerais bien savoir sur quel sujet t'as pas le droit, par exemple.
Francesca, tu sais bien.
Bah non, vas-y, bah je t'écoute. Gauthier.
tu as failli m'avoir. Tu as failli me faire parler d'un des sujets interdits, mais c'est sans compter sur mon intelligence exceptionnelle qui m'a permis d'éviter ton piège et également qui me permet de préparer la suite de ma carrière, des articles à charge contre Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bon ben voilà, vous l'avez connu en tant que chroniqueur à Radio Campus Paris. Il est parti, en très mauvais terme avec cette radio, il y a 5 ans. Depuis, vous n'avez pas pu le connaître car il n'a jamais percé nulle part. Mais nous, vu qu'on est vraiment super sympa et vraiment pas rancunier, nous sommes la seule radio qui a voulu lui faire de la promotion, c'est vrai. On accueille Gauthier qui sort son recueil de...
Attends, n'importe quoi. Fantessa, c'est quoi ça ? C'est un futur affabulé ce que tu es en train de faire. Tu es une affabulatrice. Et ne souris pas parce que ça n'a rien à voir avec le mot fabulé. Fabuleux. Désolé de te le dire ainsi, mais c'est la vérité. Ces articles, je vais les écrire et la radio perdra gros. Ça, je vais vous le dire. Et comme ça, je serai invité partout pour dire ma vérité et on me posera plein de questions sur moi, ma vie, mon œuvre, en me poussant dans mes retranchements pour que je puisse peut-être parler de plein de choses que j'ai sur le cœur, de mes tracas, de mes amis, de mes amours, de mes emmerdes, de tout ça qui
là,
me...
Mais Gauthier, là je pense qu'il va falloir que tu prennes rendez-vous chez le psy, enfin à un moment donné...
Est-ce que le psy ça peut se payer avec les droits d'auteur ?
Bah non.
Bah alors allez acheter mon livre. Salut.
Merci beaucoup. Merci, c'était Gauthier pour sa chronique et c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci Baya, Fabien. Merci aussi Philippe, Simon pour la réal et Anne et Jade pour la coordination. On revient demain, même heure. Et tout de suite, l'émission La Nouvelle Bouquinerie. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.